Cyril, bonjour à tous. Dans le cadre de notre journée spéciale 10 mois de présidence Macron, quel est le sens de l'action du gouvernement? Nous recevons aujourd'hui Alain Supiot, professeur au Collège de France, grand spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale, autour de la question de la démocratisation de l'entreprise, thème retenu ce mois-ci par le nouveau numéro de la revue Esprit. Il sera avec nous dans la deuxième partie de la Grande Table à partir de 12h55. Mais d'abord, Gérard Fromanger sur les barricades. À 79 ans, l'un de nos plus grands peintres poursuit son œuvre militante, membre de l'atelier populaire de mai 68. Il revient sur cette période de créativité débridée, engagée dans une exposition collective, Images en lutte, à voir jusqu'au 20 mai au Palais des Beaux-Arts de Paris. Après la grande rétrospective que le Centre Pompidou lui a consacrée, à venir un livre entretien chez Gallimard début mai, sur son art des couleurs. Chaude, vive, saturée, comme notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Mais gentiment.
Une histoire politique du visuel ou comment l'art et la politique se sont nourris en mai 68 et plus encore dans les 6 années qui suivirent ce printemps. Dans Images en lutte, on retrouve des artistes comme Hérault, Bernard Ranciac, Annette Messager ou encore Martial Reis. Et vous, cher Gérard Fromanger, associé depuis 50 ans à l'événement pour les nombreuses affiches, tracts, slogans que vous avez inventés. Vous souhaitiez me rectifier, il paraît que j'ai dit 2 erreurs.
Bah, hélas,
elles sont microscopiques,
hélas, j'aimerais bien y arriver, mais je n'ai pas encore 79 ans.
Ah, vous êtes à 78 et demi. Bon, ce sera cette année.
Et la deuxième, c'est, je n'en ai pas au Palais des Beaux-Arts, c'est à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Voilà, l'exposition.
Bon, ce
palais
sera...
des Beaux-Arts, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs.
Ce sera le nôtre pour l'occasion.
Oh, bah, très bien.
On en a fait un palais 50 ans après.
Bon, les gens ne se trompent pas d'adresse et n'aillent pas, je ne sais pas, dans l'absolu.
C'est à Paris en tout cas.
C'est à Paris, Quai Malaquais.
Bon, juste, cette question des Beaux-Arts, elle est d'autant plus intéressante que ce n'est pas anodin si cette exposition se passe dans ce lieu. Les Beaux-Arts, qu'est-ce que c'était en mai 68? Une place forte de la contestation?
Oui, absolument. On peut dire ça comme ça. Donc cette exposition, là, en ce moment, elle est totalement légitime, en quelque sorte, puisque et c'est sa force, d'ailleurs. Elle est sur le lieu même où ont été créées les affiches de mai 68. Et comme la police occupait petit à petit les universités, les lieux officiels, etc., les lycées, voilà, beaucoup de groupements, de comités d'action, d'universitaires, de mouvements, etc., se sont réfugiés à l'École des Beaux-Arts, en effet, où régnait encore une grande liberté avec les architectes et les ateliers de peinture.
Voilà. Vous avez été élève aux Beaux-Arts ?
18 jours. J'ai fait une année de préparation dans l'École des Beaux-Arts, et puis à l'époque, donc en 60, 61 par là, c'était tellement une mauvaise école, sale, rebutante, ça fait la pisse dans les couloirs, enfin vraiment c'est dur, quoi. C'est dur pour un jeune homme qui rêve de Beaux-Arts, de faire sa vie comme artiste, hein. Oh, d'arriver dans ce lieu avec des professeurs dont je ne citerai pas les noms, mais que d'ailleurs personne ne s'en souvient, qui étaient alors très conservateurs, disons, pour le minimum, et pendant que se passait la grande abstraction américaine, par exemple, à New York, et les débuts du pop, etc., nous avions des vieux professeurs qui peignaient des chevaux de Camargue et des portraits d'hommes politiques très académiques. Voilà, enfin, bon, alors 18 jours. Et hop, j'ai fichu le camp dans des écoles bien meilleures. Par exemple, les cours du soir de la ville de Paris. Chaque quartier de Paris a une école de Beaux-Arts formidable, très sympathique, pratiquement gratuite. En général, au dernier étage, sous les toits d'une école communale, évidemment à Montparnasse, place des Vosges, à Montmartre, je crois dans chaque quartier de Paris. En tout cas, j'en ai fait 2 ou 3 pendant 2 ou 3 ans. C'était magnifique, très sympathique. On nous apprenait à travailler, on nous apprenait vraiment, il y avait des professeurs sympathiques et compétents et cohérents. Enfin bref, c'était bien, c'était propre. Et puis, les académies traditionnelles, comme la Grande Chaumière, tout ça, voilà. Ça, j'ai fait pendant les académies, les écoles dont je viens de parler pendant 5 ans.
Mais alors vous y retournez aux Beaux-Arts en mai 68, vous y retournez par...
Du tout élève, d'ailleurs j'étais
un peu tard. Par une autre
mais
porte,
en plus j'étais plus étudiant du tout de l'école. Mais c'était un ami architecte Bruno Cézanne, plutôt, qui était philosophe, sociologue de l'architecture. Bruno Cézanne, garçon très brillant, qui continue d'ailleurs, il est toujours actif dans ce sens, dans cette profession, qui nous a prévenu, les peintres du Salon de la Jeune Peinture, c'est en disant, oh, bah, venez voir, etc., aux Beaux-Arts, on occupe, c'est intéressant. On dit, tout de suite, vers le 13-14 mai, on s'est dit, bah oui, bien sûr, c'est notre place, la France entière est occupée, essaye de changer les méthodes de travail, de vivre ensemble dans tous les métiers, pourquoi pas nous, allons-y. Et ça a commencé comme ça.
Et ça va se faire aux Beaux-Arts, avec l'atelier populaire. Qu'est-ce que c'est ?
Il y avait deux choses. Il y avait d'une part l'atelier populaire et d'autre part une salle de réunion, d'assemblée générale permanente jour et nuit où alors là les artistes discutaient du sexe des anges pour essayer de trouver de nouvelles méthodes d'enseignement, de travail, de muséographie, d'exposition, etc. Et nous, c'est-à-dire au fond beaucoup ex du Salon de la Jeune Peinture, et puis alors des groupes comme le groupe de recherche d'art visuel, les Argentins, des Péruviens, etc., qui étaient très nombreux à Paris, et probablement disons des militants de gauche, des progressistes dans leur propre pays, souvent ils étaient réfugiés, les Chiliens, etc. Et nous nous sommes retrouvés dans l'École des Beaux-Arts pour faire une lithographie, pas du tout pour faire les affiches, d'abord pour occuper, pour être là, pour voir ce qui se passe dans notre milieu, et faire une lithographie comme nous avions l'habitude de le faire, pour la vendre au profit des étudiants. Tout simplement, on faisait souvent des lithographies qu'on vendait pour une école au Pérou, la recherche sur le cancer, aujourd'hui sur le sida, droit au logement, enfin c'est ça. Toute l'année, on donne des choses. Et puis, on trouve une vieille machine à lithographie à bois, avec des pierres, etc., comme il y a des siècles. Et on se dit, bon, on va faire la lithographie avec cette vieille machine. Il y avait un pot d'encre quelque part, un petit rouleau. Et on met une nuit à en faire 30. Et on l'a fait, cette lithographie, avec le mot d'ordre qui avait couru dans les rues la même journée, qui était usine, université, union. Alors on a fait trois grands U, en tout petit, zine, université, union. Et puis on m'a dit, tiens, bah, va porter ça. Oui, je connaissais une galerie qui était susceptible de la vendre. Mais je n'ai même pas pu sortir de la cour des Beaux-Arts. Les étudiants m'ont pris, m'ont arraché ces belles lithographies originales pour les coller sur les murs. Je suis remonté voir mes copains. Mais écoutez, voilà ce qu'on m'a fait. Ah bon, bah ça veut dire qu'il faut faire les affiches. Et par chance, le peintre Guy de Rougemont, est arrivé à ce moment-là, donc le lendemain du soir de notre occupation, avec la technique de la sérigraphie. Ce qui nous a donné une possibilité autre, beaucoup plus rapide et facile d'emploi que la lithographie ou que la gravure. La sérigraphie nous permettait, ce que nous avons fait pendant un mois et demi, deux mois, de créer des milliers d'affiches, des centaines d'affiches reproduites à des milliers d'exemplaires, rapidement, mais à la main, tout à la main bien entendu, mais rapidement, à tel point que quand la police a réoccupé l'École des Beaux-Arts, ils cherchaient partout les machines offset. Et bien évidemment, ils ont cherché de la cave au plafond, il n'y avait pas de machine offset, il n'y avait que des petits cadres de soie avec des petits rouleaux d'encre et des papiers que nous donnaient les ouvriers, surtout du Figaro.
Alors j'ai lu Gérard Fromanger...
Qui nous apportait des rouleaux de papier énormes, des rotatives.
Voilà, la solidarité. Voilà, ouais. J'ai lu 800 000 exemplaires publiés en quelques semaines, ce qui est énorme, et ce qui fait de l'atelier populaire presque une fabrique d'images, d'affiches et de tracts. Vous étiez les seuls à bosser?
Ah ben en France, oui, avec nous qui travaillons, on faisait les 3-8, jour et nuit, on faisait les affiches, oui, oui. Tout le monde était en grève, sauf nous. Ou alors on peut appeler ça une grève active, oui. Bon, enfin, voilà.
Comment raconter cette période? Jean-Christophe Bailly, l'écrivain que nous recevions récemment autour de cette grande table, a publié Un arbre en mai où il évoque ses souvenirs, un récit personnel de son propre mai 68 à lui. Figure de Nanterre à l'époque, il n'aime pas dire qu'il a fait la révolution. Ce qui le guidait lui aussi alors, c'est plutôt quelque chose comme le rêve d'une chose. En tout cas, comment en parler? Comment éviter de faire remonter simplement des souvenirs d'anciens combattants, mais trouver la manière de dire mai 68 pour que ça nous parle encore aujourd'hui? Écoutez Jean-Christophe Bailly.
J'aimerais pas dire ça, je de ce côté ancien combattant, j'ai été révolutionnaire, en plus ça voudrait dire que brusquement on l'est plus, etc. C'est-à-dire, j'ai eu la chance d'être à Nanterre au bon moment et de participer à l'éclosion de quelque chose qui est devenu ce qu'on appelle un mouvement de masse, comme disaient les Mao. Et d'assister donc à quelque chose d'extraordinaire qui est la vitesse à laquelle peut se propager une idée. C'est une idée qui n'est pas l'idée d'une chose définie, mais d'ailleurs c'est très très bien concentré dans la formule du jeune Marx qui parle du rêve d'une chose. Ça a été repris comme titre par Pasolini d'ailleurs dans un très beau livre qui s'appelle « Le rêve d'une chose ». Et c'est ça, on est conduit par ça. Et brusquement, cette chose qui n'est pas définie, mais on s'aperçoit que plein de jeunes gens ont ça. Plein de jeunes gens, que qu'ils soient étudiants, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient ailleurs, etc., finalement rêvent à autre chose que à ce qui leur est offert.
Vous l'aviez, vous, ce rêve d'autre chose, Gérard Fromanger ?
C'est-à-dire que tout à coup, notre rêve, ou un rêve, devenait possible. Il devenait réalité. C'est-à-dire que ce n'était pas un rêve. C'était... Vous voyez, par exemple, il y avait un mot qui a fait fortune. C'était « soyons réalistes, demandons l'impossible ». Et moi j'ai toujours dit le contraire, c'est-à-dire « soyons impossibles, demandons le réel ». C'est beaucoup plus intéressant, le réel, c'est beaucoup plus mystérieux et c'est beaucoup plus « cash », comme on dit aujourd'hui. On rentre dans le dur du réel ou dans le dur du rêve. Car effectivement, Jean-Christophe Bailly, qui était un ami, qui était un excellent poète, il faisait partie d'un groupe, à l'époque, même avant 68, qui s'appelait le Manifeste Froid, avec Serge Sautreau, André Velter, Yves Buin, etc., et Jean-Christophe, qui est devenu un très grand écrivain, et qui parle très bien, beaucoup mieux que je ne saurais le faire, de mai 68. Je suis d'accord avec son expression. C'était pour nous, d'abord un travail considérable, les affiches, mais surtout, nous vivions collectivement un rêve de fête, c'était une fête. Et puis en fait, c'était une fête qui la rendait encore plus belle, c'est qu'elle était mondiale. C'est une fête universelle. Dans les rues, on criait Rome, Berlin, Varsovie, Paris. Oh, mais aujourd'hui, ça semble même pas pensable, tellement il y a de différences entre les frontières, malgré l'Europe, les idéologies... Les votes des pays différents, de Orban à Macron, c'est le monde est à l'envers d'un côté et de l'autre, il est sens dessus-dessous. À l'époque, nous rêvions et nous vivions une espèce d'entente de toute la jeunesse du monde, disons, disons pour faire vite, un rajeunissement de tous les rapports sociaux, voilà, qui deviendrait possible, vivable. On a cru un instant que l'homme était bon.
Vous aviez eu tort ?
Ah oui.
Vous étiez trompé ?
Non, on n'avait pas tort, on ne se trompait pas. On se trompait, mais on n'avait pas tort. Tant qu'on y croit, on n'a pas tort. Oh ben non, oh non, 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 surtout pas. Je ne regrette rien du tout. Mais, oui, enfin bon, je vous écoute.
Pardon. Ce mai 68, pour vous, Gérard Fromanger, a été un moment fondateur. C'est comme ça que vous le percevez aujourd'hui. Si on reprend cette affiche de l'atelier populaire où il est écrit « Rincez vos pinceaux, rangez le matériel, nettoyez les châssis ». Pour vous, ça a été au contraire le moment où vous avez vraiment sorti le pinceau et vous avez considéré qu'avec ce pinceau, il y avait beaucoup à dire.
Oui, non, ça c'est un peu des formules... je m'excuse, mais enfin, c'est des formules un peu académiques, un peu que je comprends pas trop. Sortir le pinceau pour enfin on faisait des affiches. Il faut pas aller trop loin. On ne faisait pas, nous ne construisions pas un art nouveau. Nous n'étions pas un groupe militant comme les impressionnistes ou les abstraits lyriques ou les abstraits géométriques ou le body art ou le grave, le groupe de recherche, etc. Nous n'étions pas un groupe qui créait une nouvelle manière de construire l'art, de faire de l'art. Nous avions une autre culture, disons, d'image que les précédents, que les époques précédentes, mais c'était pour faire des affiches, point.
Alors justement, il y avait les Mao, il y avait les Trotsko, il y avait les Anars, mais aussi les situe, avec à leur tête le plus fameux d'entre eux, le philosophe Guy Debord. Il expliquait dans son film La Société du Spectacle en 73 le fondement politique de la Société du Spectacle, lieu de tous les regards.
Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée.
Ça vous parle ?
Bah oui, bien sûr. Oui. Non, mais Guy Debord était une. Les situationnistes, ils avaient inventé, pour nous les peintres, les artistes, ils avaient inventé deux choses. La dérive, et je ne sais plus l'autre mot, ça me reviendra. Le détournement. La dérive et le détournement. Et naturellement, l'idée du spectacle qui divise tout le monde. Dans lequel nous rentrons, on était au fond, mai 68 nous débranche du spectacle, voilà, nous débranche et nous rend évidemment fou de bonheur. On se revoit, on se rencontre, on se parle, on se touche, on s'aime, on est vraiment ensemble avec grand bonheur. On n'est plus séparés à cause du spectacle qui nous divise. Et bon, bah ça dure un mois et demi, deux mois, et puis après, naturellement, la dureté, la férocité du monde reprend ses droits. Et le mot est juste, d'ailleurs, il reprend aussi ses droits. Mmh. Et nous disparaissons avec notre rêve.
Comment est né, Gérard Fromanger, l'idée de votre tableau, celui du drapeau français, où le rouge coule sur le blanc et le bleu ?
Alors ça, c'est né d'une manifestation, c'est né de deux choses. D'une part, une manifestation le jour même, car c'est comme ça que nous avons créé les maquettes. Alors, elles étaient choisies ou non par l'Assemblée Générale, mais nous créons les maquettes à partir soit des événements du jour, dans les rues de Paris, soit des groupes d'ouvriers ou d'étudiants ou de lycéens qui venaient nous trouver et nous demander une affiche. Les marins pêcheurs qui venaient de Boulogne, on ne sait pas comment ils faisaient, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus rien. Ou les gars de l'acier, ou les postiers, etc., qui venaient nous dire, ben voilà, on fait ci, on fait des jeunes, toujours des jeunes. Parce qu'évidemment, c'était en dehors des syndicats. Donc il y avait d'un côté ça, et vous êtes gentil de me répéter votre question.
C'était comment est né, qu'est-ce que vous vouliez exprimer alors, oui. Quand vous avez fait couler ce rouge sur
la deuxième raison, pardon, pour créer ce rouge qui coule, c'était 4-5 ans avant, j'avais créé un certain nombre d'œuvres où la couleur coulait hors du tableau. J'avais eu des problèmes de peintre, entre peintre et marchand, etc., comme toujours, et furieux, pour exorciser ma peine, ma difficulté face, je crois que c'était un marchand à l'époque, j'ai dit, je vais en faire une œuvre, et du coup, alors, mon tableau coule, mon tableau s'égoutte, mon tableau part en fumée, mon tableau se brise, mon tableau part en morceaux, et il y en avait un, donc, qui s'écoulait. La couleur sortait vraiment, alors j'avais fait des découpages en bois pour que ça coule vraiment en dehors du tableau. Et je n'aurais jamais pu faire ce drapeau avec le rouge qui coule si je n'avais pas eu cette idée 3, 4, 5 ans avant que couler, que la coulure, qui n'est pas un dripping à la Pollock américain, etc., d'abstraction américaine, c'est tout à fait autre chose. En fait, j'avais eu cette idée que ce qui coule, tout simplement ce qui coule, est poétique, c'est-à-dire la matière, la nature en train de vivre, de bouger. Et je m'excuse, mais c'était en regardant les pisses de chats et de chiens dans les rues. Je voyais ça, c'est qui coulait du mur sur le trottoir. Personne ne regarde vraiment, mais il y en a partout. Et à la fin, je dis, mais eh ben oui, ça me touche, à chaque fois ça me touche. Ça ne me rappelle pas le chien qui pisse, ça me rappelle rien d'autre que la coulure. Et la coulure, c'est la nature en train de vivre quelque chose, un drame, son drame, sa vie. Elle passe sur un pavé, sur un autre, elle contourne une vis, un panneau, etc. Et je me dis, bon, ça coule, c'est intéressant. Du Buffet, avant, par exemple, avait dit ça, le mur se fend, le mur bouge un peu, ça vaut un tableau. C'est, voilà.
Et ce motif,
ça venait de là. Sans ça, j'aurais pas pu faire l'affiche.
Ouais, ce motif, vous l'avez retravaillé, décliné par la suite, notamment avec Jean-Luc Godard, dans une série de ciné-tracts, celui-ci portant le numéro 1968. Le rouge est devenu vraiment votre couleur aussi à partir de ce moment-là, qu'on retrouve dans votre célèbre série de silhouettes rouges, là encore. C'est un travail aussi sur les symboles, et peut-être aussi pour vous, Gérard Fromanger, sur l'inconscient, mais est-ce que c'était aussi un travail politique? C'est en tout cas la valeur que lui donnait Krzysztof Kieslowski, le réalisateur de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Il trouvait qu'on avait un peu oublié ce que signifiait vraiment cette devise liberté, égalité, fraternité, le choix de ce rouge qui coule. Est-ce que vous aviez envie de travailler aussi sur ce symbole politique?
Bah, bien sûr, ça participait de ça, dans la mesure où ce rouge qui coule devient, qui mettons créé, imaginé en 64-65, devient drapeau rouge français dont le rouge coule et envahit la couleur blanc et bleu, il devient forcément politique. Et d'ailleurs, il a été refusé par l'Assemblée Générale de l'Atelier Populaire des Beaux-Arts. Après une longue, longue discussion, et c'est drôle, ces jeunes gens, entre guillemets, révolutionnaires, ou en tout cas révoltés, qui refusent une idée un peu, effectivement, forte, et ayant peur que les militaires soient mécontents, etc. Ah oui, oui, et donc après une longue, longue discussion, un long débat, il a été refusé. C'est le mouvement du 22 mars de Danny Cohn-Bendit qui a voulu le reproduire. Et alors ils l'ont, ça s'est fait chez un imprimeur à Nanterre, et puis ça a disparu parce que Cohn-Bendit a été expulsé de France, et alors après, bon, ça... Je ne sais pas où ce que sont devenus les drapeaux de l'époque. Moi, j'en ai fait d'autres plus tard, après, oui, bien entendu.
Et sur cet après, Gérard Fromanger, les 7 ans de l'exposition actuellement aux Beaux-Arts définissent les préoccupations des artistes de l'époque. On est loin du mois de l'artiste. Hein. On y représente à la fois cet ailleurs fantasmé, que ce soit la Chine, le Vietnam, Cuba, la Palestine, l'usine, l'exploitation agricole, l'université, l'atelier, le bidonville, la prison, la communauté, la manifestation et le corps, qui est aussi un des thèmes importants de cette exposition, qui regroupe, on le disait, plusieurs artistes, dont vous, Gérard Fromanger. Cet après, c'est aussi que tout n'a pas eu lieu en mai 68. L'exposition, d'ailleurs, choisit de dérouler le fil jusqu'à 74, parce qu'il s'est passé beaucoup après, une fois que les Beaux-Arts ont été vidés aussi. Comment vous avez réussi à prolonger cette attitude mai 68 dans votre art?
C'est-à-dire que assez longtemps après, quelques petites années, on y croyait toujours. Pas tous, mais on y croyait toujours. Malgré le vote extrêmement majoritaire des gaullistes, etc., en 68, et qui pour le retour à l'ordre, disons, beaucoup d'entre nous y croyaient toujours. On avait vécu quelque chose de tellement extraordinaire pour vivre ensemble, en collectif, d'une façon un peu plus humaine que ce que ça n'était. C'est cette espèce de croyance, de foi, d'une certaine manière, en un bonheur commun possible, qui fait qu'on crée des œuvres dans ce sens. Par exemple, moi, dans cette exposition, j'ai un tableau, là, aux Beaux-Arts, qui s'appelle « La vie d'artiste ». Et ça n'a rien à voir avec les tableaux militants ou maoïstes ou anarchistes, etc. J'étais très content qu'ils le mettent dans cette exposition parce que dans le titre même, on veut montrer, répondre à votre question en quelque sorte, qu'est-ce que la vie d'artiste après mai 68? Et de fait, le jour où il y a, alors c'est l'objet de ce tableau, une révolte des prisons, je crois que c'est à Toul ou à Nancy, Je suis dans l'atelier, je ne suis pas un peintre isolé, hors de la société, qui rêve des formes pures, abstraites, etc. J'écoute ce qui se passe, j'écoute la radio, je lis les journaux, et je suis à la fois, comme tout le monde, je dis, ouais, c'est tous ces taulards sur les toits, ils ont peut-être tué, ils ont peut-être volé des gens, c'est des méchants, c'est sûr. Mais moi, peintre, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Qu'est-ce que j'ai à dire? Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historien. Je ne suis pas critique de la justice, je ne suis pas journaliste justice, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis rendu compte qu'à travers la couleur, par la couleur, je pouvais en quelque sorte comprendre quelque chose de leur humanité qui me touche. Et alors ils sont dans une projection, dans le tableau, en couleur sur les toits, révolté sur les toits, mais avec les couleurs du spectre solaire. Et moi, je suis enserré par ces mêmes couleurs qui viennent d'eux, comme si j'étais touché, pris, entrepris par cette bataille folle, douloureuse, mais quand même, malgré les criminels, malgré les gangsters, les voleurs, etc., ces gens qui sortent par le toit, qui crient leur malheur, leur angoisse, il y a quelque chose de profondément humain qui touche un artiste.
Encore une voix qui vous est familière, Gérard Fromanger, dans ses leçons sur la peinture données en 81, le philosophe Gilles Deleuze, que vous avez connu, décrit l'acte de peindre, et notamment le vôtre, comme ce qui vient brouiller le cliché pour que la peinture en sorte.
J'ai l'impression que les vraies luttes, c'est des luttes toujours avec l'ombre. Il n'y a pas d'autre lutte que la lutte avec l'ombre. Les clichés sont déjà là, mais ils sont dans ma tête, ils sont en moi, quoi. Ils sont en moi, ils n'ont pas besoin... Et quand Fromanger les fait surgir pour les mettre sur sa toile, afin de les détruire et d'en faire sortir un fait pictural, c'est une manière déjà de les conjurer. Ils sont déjà là. Et ils sont tellement déjà là que là, je reprends la liste des dangers. Si vous ne passez pas par le chaos catastrophe, vous resterez prisonnier des clichés.
Comment ne pas rester prisonnier des clichés? Vous n'aviez jamais entendu ces mots de Deleuze qui vous cite?
Je reconnais bien sa voix pleine de charme, mais non, je n'avais jamais entendu ce... Apparemment, il y a du bruit autour, ça doit être enregistré sauvagement à l'université, pendant ses cours.
L'acte de peindre ou le rôle de l'art, Gérard Fromanger, est-ce qu'on peut dire que la peinture a été pour vous toujours à la fois source d'idéal, mais surtout une manière de rafraîchir l'image qu'on se fait du monde?
Oui, bien sûr, on peut dire ça. Mais si on continue la pensée de Deleuze, il avait donné un cours célèbre à la FEMIS, l'école de cinéma qui avait remplacé l'IDEC, et ça s'appelait, je crois, l'acte de création. Et il parle beaucoup de ça. Et au fond, il conclut en disant l'acte de création est un acte de résistance. Résistance à tous les malheurs du monde, résistance à la mort. Et c'est ce qui fait sa beauté, son existence. Et je pense que oui, vous voyez, au fond, les artistes sont absolument nécessaires, indispensables à la vie collective, à la vie en commun. Pourquoi? Parce que ils inventent quelque chose, ils essayent, et parfois ils arrivent à rajouter un petit caillon blanc à ce qui existe, à l'académisme, à l'inventivité, dans les avant-gardes. Ils inventent, même petitement, quelque chose qui prouve qu'on peut changer les choses.
Gérard Fromanger, merci beaucoup. Images en lutte, c'est un très beau catalogue paru aux Beaux-Arts Éditions. L'exposition est à voir, elle, aux Beaux-Arts à Paris. Et pour les auditeurs, juste indiquer qu'on peut aussi voir vos pastels dans cette exposition, dans le cadre de cette exposition qui s'appelle Drawing Now Art Fair. C'est le salon du dessin contemporain. C'est jusqu'au 25 mars au Carreau du Temple à Paris, là encore. Oui.
Ah oui, c'est formidable.
Ah oui.
Oui, en France. Maintenant, on appelle ça un solo show à Drawing Now dans Paris Art Fair. Formidable.
Traduction?
Aïe, 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 aïe.
C'est du Gérard Fromanger, pur et simple. Merci beaucoup à vous.